bienvenue à Afrique Caraïbe. Ouais, on est là, on vous retrouve encore, comme vous savez, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est une émission hebdomadaire, c'est une fois par semaine. Là, on se retrouve pour une nouvelle émission. On va démarrer, qu'est-ce qu'on va démarrer aujourd'hui? Avec quoi on va démarrer? C'est la disparition, le décès du grand maestro malien Bonkana Maïga, qui a fait toute sa carrière d'ailleurs en dehors de son pays de naissance, hein, ouais, son pays d'origine, le Mali. Ancien étudiant quelque part là-bas, à Cuba, ils sont allés étudier, mais beaucoup ont opté pour la musique, c'est un grand flûtiste. Voilà, on va écouter une de ses pièces, d'abord une toute première de lui, pour aujourd'hui, Africando, le groupe a été fondé par lui d'ailleurs, et puis on revient là-dessus, Dolembolo, de Bonkana Maïga.
Oi, Andobolo, viens me dire calme.
Merci Mathieu.
Merci à toi Fulgence.
Ah, pour ceux qui ne nous voient pas, on n'est pas à la télé, il était en train de danser, je l'ai surpris en train de danser là-bas dans sa cabine, je parle de mon complice Mathieu Tessier. Comment vas-tu toi?
Ouais, je vais très bien, c'est pour ça que je danse, parce qu'il n'y a pas de caméra.
Je l'ai souffert en train de danser là.
Il n'y a que toi qui souffres en ce moment.
Ouais. Là, c'était la voix de une pièce musicale du groupe Africando. Pourquoi Africando? Parce qu'on va parler de Bankalan Maïga, le maestro qui nous a quittés à 77 ans. Que la terre lui soit légère et que son âme repose en paix. Père son âme, son esprit. Figure de la musique africaine et originaire du Gao, de Gao, c'est au Mali, hein. Beaucoup de gens ont pensé qu'il était ivoirien. Non, c'est parce qu'il a fait sa carrière, toute sa carrière musicale en Côte d'Ivoire, disons. Il a commencé là. On dit merci à toute cette équipe de la télévision ivoirienne à l'époque qui lui a ouvert les bras. Ouais, qui lui ont permis de percer ce milieu un peu compliqué de ce musical. Abusant à l'époque, c'était pas donné. Il fallait tomber dans la clique des Fulgence Cassie, des Benson et autres. Et puis bon, ben, une fois que tu as rencontré ceux-là, tu es parti, quoi. C'est comme ça qu'il a percé ce marché. Son histoire est un peu spéciale. Il fait partie des étudiants africains qui étaient allés à Cuba pour étudier. Voilà. Ils sont pas les pour apprendre la musique, hein. Bon, ben, ils n'ont pas respecté les contrats qu'ils ont signés avec les parents ou bien avec les différents gouvernements qui les ont envoyés. Ils ont fait ce qu'ils avaient envie de faire. La musique afro-cubaine, c'est un grand flûtiste, Bankalan Maïga. Moi, c'est le côté calme. Je ne l'ai jamais vu comme quelqu'un de bouillant. Je suis... c'est pas un de mes amis. Non. J'ai connu sa musique à travers aussi ce que les parents jouaient tout le temps à la maison. Ouais. Et puis, j'ai quelqu'un avec moi ici en studio aussi qui est du milieu artistique. Et qui... c'est pas son ami non plus, mais on va échanger ensemble. Et puis en plus, c'est la première fois que je le fais passer ici à mon émission. C'est vrai, je t'ai jamais invité. Abena, comment vas-tu?
Super bien, merci beaucoup pour l'invitation.
Ouais, merci d'avoir eu le temps de venir. D'ailleurs, tu m'as dit non, oui, je ne suis pas spécialiste de Bankalan. Non, ce n'est pas question de spécialiste quand même. Tu sais qui est Bankalan Maïga. Quand tu as appris cette disparition, comment tu t'es dit, oh, un autre monument vient de nous quitter?
Effectivement, un autre monument... mais au-delà de ça, c'était vraiment tu as des monuments qui sont on voit l'immeuble mais on voit pas les fondations.
On voit pas les fondations.
Alors lui, c'était vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans la vision de partir des profondeurs du bas vraiment et de travailler en profondeur. C'était quelqu'un de très intéressant dans ce je l'ai pas comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai pas beaucoup connu. Mais on s'est croisés plusieurs fois parce qu'on avait le même producteur, Ibrahim Sila. Mmh.
Ça, c'est à Paris, ça.
Ouais, avec qui j'ai travaillé beaucoup.
Mmh. Et, donc il parle de ça parce qu'il a traîné ses bosses dans beaucoup de studios à Paris avant d'arriver ici.
Un petit peu.
Un petit peu, voilà. Ouais.
Oui. Donc, c'est ça, en gros. Et c'était quelqu'un de vraiment une grosse rigueur. C'est une main de fer dans un gant de velours. En studio, il était impressionnant par son calme, le ton de sa voix, mais oui. Il obtenait toujours ce qu'il voulait. Mais avec un très grand calme, jamais élever la voix.
C'est vrai.
C'est inspirant. Hein. Ouais. Ils ne sont pas très nombreux.
Je pense bien que ce côté de lui a marqué beaucoup de gens sur cette terre. Pour ceux qui en connaissent ce monsieur, musicalement parlant.
Je vais te dire une chose. Ce qui a fait Africando, bon, c'est sûr que la composition, les arrangements étaient d'un certain niveau. Mais c'est la recherche de la qualité du son. C'est pour ça que cette association avec Ibrahim Sila a été...
Et les autres?
Ça a été parce que le son, quand tu écoutes une chanson, un album Africando, la qualité de l'enregistrement, c'est le top.
C'est un groupe panafricaniste. Hein. Panafricain. Il est le pionnier des rythmes afro. Il faut le dire. Hein. Je parle de Bankalan. Et puis... Ibrahim Sila, dont tu parles aussi, c'est les gens qui faisaient leur carrière. Hein. Ils avaient leur carrière.
C'est les pionniers.
C'est les pionniers.
Oui.
C'est les gens. Mais cette collaboration avec Bankalan, quand même, je pense que ça envoyait ce groupe qu'ils ont pu créer là à un autre niveau. C'est-à-dire la musique afro-cubaine même, à un autre niveau.
Mais c'est ça un bon projet, en fait. Autant ça a permis à Bonkana de développer son projet,
oui.
Autant ça a permis à Ibrahim Sylla d'exploser.
Et ça a permis à beaucoup de gens aussi qui l'ont vu comme... on dit, oh, ceux-là, on leur a donné une bourse, ils sont allés à Cuba, ils ont balancé les études dans les poubelles, et puis bon, ben, ils ont fait de la musique. mais, je me suis dit, même s'ils avaient fait des études, qu'ils avaient eu des diplômes, qu'ils étaient rentrés avec... Ils ont fait des études, bien sûr. Est-ce que la qualité de vie qu'ils ont eue, ou bien la richesse, même le bonheur qu'ils ont eu, ils allaient avoir, même s'ils étaient chefs d'entreprise quelque part, ça allait être différent, quoi. Ouais. Il y a des gens qui en veulent à ces jeunes gens-là, qui ont fait autre chose que ce qu'ils sont allés pour faire.
Non, moi, je ne pense pas que ce soit... Aujourd'hui, en tout cas, avec la vision d'aujourd'hui, c'est absolument pas incompatible.
Ouais.
Tu peux être ingénieur et puis être un excellent musicien professionnel.
C'est ça, oui.
Il y a des avocats qui sont musiciens professionnels.
À l'époque, ça ne mélangeait pas.
Ouais,
c'est l'un ou l'autre.
Oui, c'est sûr.
Ouais,
mais je trouve qu'ils s'en sont bien sortis parce que... Je ne sais pas s'ils ont obtenu leur diplôme, mais attention, ils faisaient leurs études.
Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas bossé.
Ouais,
mais ils se sont beaucoup plus... c'est ce qui leur passion. Parce
et
que la musique était leur passion.
Et je pense que c'est cette passion...
Oui.
Non, que ce sont ces études qui ont permis la qualité de leur musique.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Je pense que ça
ils
joue.
Ils ont tous fait des hautes études quand même. Ouais. Mmh.
Ça joue, je pense
ouais.
que ça joue.
Ouais. Et puis se retrouver dans un pays comme Cuba, qui vibre au son de la musique...
Ouais.
Afro-cubaine, il faut le dire, hein,
ouais.
parce qu'il y a une colonie afro là-bas, à Cuba. Ils ne se sentaient pas à l'étranger. Hein. Ouais. Et la plupart des grands musiciens cubains afro, d'origine afro-descendante, ils se sont fait des amitiés, ils se sont créés des amitiés entre eux. Là. Ça leur a permis vraiment de... Moi, j'ai vu des soirées de groupes afro-cubains,
uh-huh.
avec des Cubains d'ascendance africaine, bien sûr. Afro-descendants.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Mais quand tu les vois, même à l'œuvre, tu penses que c'est des gens qui viennent du vieux continent, quoi.
Mais oui, je n'ai pas tous les noms, mais tu as des rythmes à Cuba qui
oui.
sont très, très proches.
Oui.
C'est vraiment à la, au quart de, je sais pas, à la croche ou à la double croche près de temps en temps. Hein. Après, des fois, c'est exactement la même chose, mais c'est l'intention juste qui change.
Oui, oui, oui.
On met l'accent.
C'est pareil au Brésil,
accents, ouais.
la samba et autres.
Exactement,
tout ça.
Exactement.
Et ils ont un genre de sport un peu comme le taekwondo et autres, là, qu'on appelle capoeira.
Uh-huh.
Ça, c'est des trucs...
Que tu trouves au Bénin, que tu trouves...
En Angola,
en Angola
parce qu'il y a eu plein d'esclaves d'origine angolaise, les Portugais, ils se sont retrouvés là-bas au Brésil. Quand tu arrives à la ville de Bahia, où 95% de la population est noire, je parle du Brésil...
Uh-huh.
Et tu te dis, mais est-ce qu'ils ont reçu plus d'esclaves que les États-Unis ? Oui, beaucoup de gens ne le savent pas.
Je l'ignorais.
Ouais, le Brésil a reçu plus d'esclaves que les États-Unis d'Amérique. Ah, je connais
ils
pas.
Ils sont passés où alors, ces esclaves ?
Ah, mais au Brésil, il y a des traces encore, mais non.
Ouais, beaucoup, mais bon,
comment dire, et les autres, en Argentine, où ils sont passés, pose la question sur l'Argentine.
Ah.
Ouais, il y a un nettoiement. Il fallait blanchir la population. C'est compliqué.
D'accord.
Ouais, mais au Brésil, ils n'ont pas pu parce qu'ils étaient en très grand nombre.
Yeah.
Ouais, même cette danse d'Argentine, là, comment on appelle ça ?
D'Argentine ?
Alors, comment ça s'appelle d'être ? Ils dansent le tango.
Là, le tango ?
Le tango est d'origine africaine.
Il paraît, ouais.
C'est une réalité. Je connais une Argentine, une femme d'origine argentine, toute blanche, là, ici à Montréal, qui m'a approché une fois, qui... Jean, est-ce que tu sais que le tango est d'origine africaine ? J'ai dit, ouais, j'ai déjà fait des chroniques sur ça. Ouais. C'est plus tard que la bourgeoisie blanche s'est appropriée. C'était un truc des noirs dans les ghettos, dans les trucs après le travail forcé.
Mais c'est délicat. C'est bien de trouver les origines, c'est intéressant. Mais en même temps, quand tu écoutes le tango aujourd'hui, ou comme le jazz,
il y a eu
un voyage.
Oui, bien sûr.
Il y a eu un voyage qu'on ne peut pas ignorer.
S'il n'y avait pas eu d'esclavage, il n'y avait pas de tango en Argentine. C'est ce qu'elle voulait me faire comprendre.
Wow. Ouais.
Et il faut faire attention quand tu fais des recherches à les origines, à tango, noir, là, tu n'en trouveras pas. Il ne faut pas. Les gens ont dit, mais oui, quand tu regardes l'équipe d'Argentine, est-ce que tu vois des noirs là-dedans ? J'ai dit, non, tu ne verras jamais.
Quelle équipe ?
Équipe de foot. Oui. équipe du Brésil, football, je veux dire. Quoi. Oui, il n'y a pas de noirs là-bas. Ouais. Non, il n'y a que des blancs. C'est comme si les esclaves ne sont pas passés par là aussi. C'est vrai. Hein,
je
ne
sais pas pourquoi, mais je ne me mêle pas de cette discussion.
Moi non plus.
On n'a pas le droit de dire ça ?
Ah non, c'est pas ça. Hein.
Un pays dans lequel il y a eu des esclaves et puis bon, on les voit pas. Mais ils sont pas tous, ils n'ont pas pu être tous éliminés, pu être éliminés. C'est une minorité qui vit cachée.
Mais de toutes les façons, le résultat, c'est que bon, comme Bonkana Maïga, il y a toujours artistiquement. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Si tu vas en Argentine, il y a plein d'artistes africains qui passent par là, les Richard Bonat, tout ça. Ils
attention,
sont souvent en concert.
Je n'ai pas dit que l'Argentine ne reçoit pas d'artistes africains, ou bien des artistes africains qui ne vivent pas là. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire.
D'accord.
Alors, on revient sur ce grand musicien, ce grand artiste qu'on appelle le maestro, Bonkana Maïga, figure de la musique africaine et afro-cubaine. C'est un lancé, formé, accompagné plusieurs artistes du continent. Ouais, c'est lui-même qui a fait connaître Aïcha Koné. Ouais, Aïcha Koné. Et le Congolais Koffi Olomide, c'est Bonkana Maïga qui l'a fait découvrir, ce mec.
Oui, tu as tout. Et il n'est pas le seul, d'ailleurs, parce qu'il a travaillé avec beaucoup de Congolais. Oui, tu as raison. Hein.
Ouais.
Mais il était bien placé aussi, tu sais, Sila, pour beaucoup, hein, dans plein de carrières. Hein.
Oui. Non, je te regardais parce que je voulais savoir s'il y en a encore des minutes de blablabla.
Mais tout le temps que vous voulez. Hein.
Voilà.
Moi, je vous suis à ce point.
Ibrahim Sila est pour beaucoup dans plein de grosses carrières en Afrique.
Voilà. Oui.
C'est
une stratège. Ouais. Ouais, donc, quand tu entends Aïcha Koné, Koffi Olomide et autres, sans oublier la nouvelle génération qu'il a connue vers la fin de sa carrière aussi, hein, parce qu'il n'a pas continué à travailler, il ne faisait que.
Je pense
que
qu'il a été malade aussi à un moment.
Il est mort dans une clinique à Bamako d'ailleurs.
Ah, ok.
Ouais. C'est triste nouvelle pour le monde de la culture, le maestro Bonkana Maïga vient de tirer sa révérence. Ça s'est passé samedi à 5h du matin, dans une clinique à Bamako.
J'espère qu'à Montréal, je vais essayer de voir comment on peut lui faire un petit tour.
Une soirée d'hommage. Pourquoi pas.
On en a fait une il y a très longtemps ici pour Papa Wemba.
Pour Papa Wemba. Et pour Mani Dibango, vous n'avez rien fait?
Non, parce que c'est arrivé pendant la pandémie, c'est pas facile à gérer.
Mm-hmm.
Et donc du coup, ta question me fait réaliser que peut-être que ce serait plutôt une soirée d'hommage à tous ceux qui sont partis, pas à un seul, tu vois. Ce serait une soirée
à toutes ces grosses têtes là,
quelque chose à faire.
Le maestro Bonkana Maïga. Waouh. Je sais pas, c'est une figure emblématique, et il a eu même quelquefois à des entrevues, et il y a des gens qui l'ont entendu dire je suis ivoirien, et d'adoption, ça je peux comprendre. Il voulait pas trop repartir sur son origine, mais tout le monde sait que c'est un Malien, mais il n'était pas le seul Malien qui a fait carrière en Côte d'Ivoire, il y a eu plein de Salif Keita et autres là.
La Côte d'Ivoire est la capitale de la musique africaine.
C'était la plaque tournante.
Toujours.
Ouais, bon, je suis un peu loin de tout ça maintenant. Allez, une deuxième pièce de Bonkana Maïga avec Africando.
No hay en Cuba un extraño.
Oui, c'est la deuxième pièce qu'on passe ici à cette émission aujourd'hui de Africando, le groupe fondé par Bonkana Maïga. C'est Medoun Koulé, c'est le titre de la pièce qu'on vient d'écouter d'ailleurs. Alors, le ministre malien de la Culture, qu'est-ce qu'il dit? Il voit en Bonkana Maïga un grand artisan du riche patrie, pionnier des rythmes afro-cubains, figure légendaire de la musique internationale, qui a collaboré aussi avec des artistes maliens, bien sûr, des artistes de son pays d'origine, réputé comme la chanteuse Ami Koita et Oumou Sangaré. On ne peut pas parler de la carrière de Bonkana sans parler de ces jeunes dames-là aussi qui sont venues après lui. Et en fait, de même avec l'international, avec de grands noms comme Aïcha Koné, comme je vais, Alpha Blondie aussi, il ne faut pas l'oublier, le Camerounais Manu Dibango et son épouse Kamaldine. Ouais, ça c'est... Il est originaire de Gao, pour ceux qui savent pas, c'est dans le nord du Mali. Hein, c'est pas juste la ville voisine de Bamako, là. L'homme à la flûte qui a été formé au début de sa carrière à Cuba dans le contexte des années 60, avant même l'indépendance de certains pays africains, où le régime socialiste du Mali avait des relations intenses avec l'île communiste, alors dirigée par Fidel Castro, voilà, et qui était président à l'époque, c'était Modibo Keïta, président du Mali. Ouais, c'était à cette époque-là. Oui, parce que le Mali est devenu président, comment dire, indépendant sous Modibo Keïta.
C'est un lien avec le roi.
Ouais. Donc, il a décidé d'envoyer des jeunes gens à Cuba et fait partie de cette sélection. Voilà, c'était une aventure pour eux, quoi. Ils sont restés de janvier 64 à 68, puis jusqu'en 73. Ils étaient formés à Cuba dans la base de Las Maravillas. C'est complètement chez le latino. En allusion à ce groupe musical dont il a été membre fondateur et chef d'orchestre à la fin des années 60, Bonkana a été fondateur et arrangeur du groupe panafricain Africando, connu pour ses rythmes afro-cubains. Alors, Vénan, pour ceux qui... Quel gros nom africain de sa génération qui te reste, que tu as en tête actuellement? Les gars de sa génération, à peu près, qui vivent encore, qui font encore de la musique, il y en a quelques-uns encore qui vivent. Il y a l'autre là, comment il s'appelle, le Gabonais Pierre Akédengue, est-ce qu'il vit encore?
Pierre Akédengue, je pense pas qu'il soit encore vivant.
Ouais, c'est...
Mais faisons, attends, je touche du bois, voilà. mais je...
C'est pas parce qu'on entend plus sa musique, ou bien...
J'ai passé tu penses qu'il est toujours vivant?
Je ne pense pas, tu peux jeter un coup d'œil sur Google là pour
Pierre Akédengue.
J'ai passé même une pièce musicale ici la semaine passée.
Ok.
Oui, il parle de l'unité africaine, tout ça, la Pierre Akédengue.
Ouais. Un grand, ouais, un monstre. Ouais.
Comment s'appelle l'autre là aussi? C'est un qui se faisait appeler Francis Bébé ou bien quelque chose comme ça.
Mais non, Francis Bébé est décédé il y a longtemps.
Il y a longtemps celui-là.
Ouais, ouais.
Oui, on a encore une minute au moins? Deux? Trois? Ok, d'accord. Et puis bon, ben, donc tu penses que...
Pierre Akédengue est vivant.
Il vit encore. Ouais, il doit avoir quel âge maintenant?
82 ans.
Moi. 82 ans.
Wow.
Ouais.
Oui, c'est un des monstres qui reste.
Ouais. 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 82 ans. Grand parolier, poète, belle plume.
Sans que ce ne soit de la même génération, au Sénégal, on a quand même Youssou N'Dour qui est là depuis très très longtemps.
Oui, c'est pas la même génération.
Mais ça...
C'est une génération beaucoup plus jeune.
Mais ça devient un monstre.
Ah oui, il est encore là, il est vivant. Ouais, il est encore actif, on verra bien dans 10 ans, c'est ce qu'on va dire de lui.
Yeah, okay.
Oh, il n'a pas 80, non, attention. Non. Il n'est pas encore là, il n'a pas 80. Mathieu, pourquoi tu ris? Parce que j'ai dit...
Ah, parce que moi, j'ai beaucoup aimé, je ne le connaissais pas, cet artiste.
Ouais,
tu parles de... On en a fait jouer la semaine dernière.
Ah là. Oui, vous parlez de l'unité africaine. Là.
Ouais. Mmh. Ouais, c'était Africa, très, très bon.
Africa Obota.
Ouais, j'ai beaucoup aimé.
Oui, oui, oui. Alors, on dit quoi? Paix à l'âme, que la terre lui soit légère. Je parle de Bonkana Maïga, le maestro. Et puis, voilà.
Et on le remercie pour tout ce qu'il nous a laissé.
Ah oui.
Ouais.
Ah ouais, tout son, toute son, son
héritage toutes musical, ses œuvres,
son héritage musical.
Immense, et puis, immense.
Et,
tu sais que c'est lui qui a fait la musique de Bal Poussière, le film?
Ah, tu vois. Ouais.
Immense, il a une discographie de malade. Hein.
Je me suis pas trompé de te faire passer ici. Hein, faut vous dire. Oh, tu voulais me faire croire que tu savais pas trop de lui alors. Non, de toute façon, tu es dans le milieu artistique, tu es un artiste aussi, tu es aussi un producteur. Et donc, tu comprends mieux son histoire, son parcours de producteur et pas seulement comme flûtiste. C'est un instrument qui me plaît beaucoup aussi quand c'est bien joué, la flûte. Quand c'est bien joué, il y a. Voilà, merci d'être passé.
Je te remercie infiniment.
Oui.
Je reviens quand tu veux.
Ouais. Non, ça va, je vais te faire appel de temps en temps comme ça. Surtout que tu habites, on est voisins.
On est voisins.
Je dis voisins, pas avec moi dans ma vie privée. On est voisins. La radio et toi, vous êtes des voisins. Tu habites non loin d'ici là. Merci beaucoup, Abbé. Non, mais ma deuxième partie je aussi, je vais te faire intervenir. Il y a deux sujets que je vais te laisser quelques mots là-dedans. Ouais, restez à l'écoute après la petite pause publicitaire et on vous revient pour la deuxième partie de l'émission.
Vous écoutez Afrique Caraïbes avec Fulgence Blas.
Hey, mama, Malena. Mama Malena, o kwa muninga kumufuka ya dia. Kutungiza mutima wa mibwe Okusila kwa mina zola ya verdade Ndakuta Kalapa mwe kumama yami Okufishila mutima wa mi Okunjiga kwa mimuzila ya pashi Okunyolola nzila Okala mwanga ya moyo wa mi Okala kima kia mwene total Kwami mwene so
Mama Malena Sola ya muetu
Oka kusalva moyo
Niwenda kwe
Mama
Niwenda Malena
Mama Malena
hey.
Sola ya verdade kankutu
Niwenda Mama Malena
Vula zua Oka la pene kwami Mudifuka diaku Muzola diaku Na wagu mwene Ogu baba makasu yami Omona kusika kwami Mama ukala mpungu wami Ogu njika nzila yami kumosi hey. Ogu nyolola nzila
Mama
ukala mwanga ya moyo wami Ukala kima kia mwene total Kwami mwene so Salva moyo wangu
Nikiwenda we
mama
Nikiwenda Malena
Mama Malena
hey.
Sola ya verdade kankutu
Nikiwenda Mama
Moyo wa mikwene
Nkiwenda
Mama Malena
Nkiwenda
Uzola dia kuya pesu
Mama Malena Sola ya mweto
Oka kusalva moyo wa
Nkiwenda we
Mama
Nkiwenda Malena
Mama Malena
yeah.
Sola ya verdade kankutu
Nkiwenda Mama Malena
Mama DJ Kush, hey.
C'est du côté de l'Angola, comme ça, avec DJ Kwoshi, Malena, ça c'est la kizomba pure, voilà. C'est ça. Merci. Tu as aimé ça, Bina?
Ah, j'ai adoré.
Ah, tu adores ça?
Une voix d'enfer, cette
artiste. Ça, qu'ils ont. Avec DJ Kouachi, Malena. Avant de passer à une autre pièce musicale, je veux parler de Culture Montérégie. Soumission de vos projets afin d'intégrer l'espace virtuel Catapulte pour l'année scolaire 2026-2027. Ça peut t'intéresser aussi, hein, avec tes différents projets culturels. Uh-huh. Appel des propositions, soumettre vos projets afin d'intégrer l'espace virtuel Catapulte. C'est le pôle culturel jeunesse de la Montérégie, une initiative de Culture Montérégie qui invite les artistes, les écrivains, les organismes professionnels de la Montérégie qui créent des ateliers ou diffusent des productions à l'attention du jeune public à soumettre leurs propositions afin d'intégrer Catapulte, la vitrine de l'offre culturelle jeunesse en Montérégie. Ouais, il n'est pas nécessaire d'être membre de Culture Montérégie ni du répertoire Culture Éducation du ministère de la Culture et des Communications pour participer. C'est très important. Ouais. Oh, moi, j'habite pas en Montérégie, je ne peux pas poser ma candidature. Non, tout le monde est autorisé. Vous habitez le Québec. De plus, vous avez jusqu'au 6 avril là, ouais, pour déposer une proposition. Hein. Allez-y sur le site culturemontérégie en un seul mot, .qc.ca. Je donne toutes les infos en même temps. En intégrant Catapulte, les artistes, écrivains et organismes s'engagent dans une démarche de collaboration avec l'équipe Culture Jeunesse de Culture Montérégie, d'où l'objectif est de bonifier la visibilité de leurs activités auprès des acteurs concernés. De plus, Catapulte lance un seul appel de proposition par année. C'est une seule fois par année. Si vous ratez, vous allez attendre 2027. Merci Mathieu. Il s'agit donc du seul moment que vous avez pour ajouter vos offres pour l'année 2026-2027. Donc pour plus d'informations, ouais, vous pouvez communiquer avec la coordonnatrice Culture Jeunesse, hein, je donne son nom là, Marie-Hélène Talon, cultureeducation@culturemontregie.qc.ca. Et il y a même un numéro de téléphone direct, 450-651-0694 au poste 248-248. C'est Marie-Hélène Talon. Ce projet a été lancé d'ailleurs en 2024. Catapulte est un espace virtuel conçu pour les enseignants et les intervenants jeunesse de la Montérégie qui souhaitent faire vivre des expériences culturelles de qualité à leurs élèves ou groupes de jeunes. Donc la plateforme permet de découvrir les nombreuses offres disponibles dans la région, sorties et ateliers, et puis de prendre aussi contact directement avec les responsables de ces offres. Inscription jusqu'au 6 avril. Si c'est après, vous êtes déjà éliminé. Faut pas...
D'accord.
Mathieu, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux postuler?
Tu
as déjà un projet qui passe?
Absolument, moi je suis plein de projets.
Mais ils n'ont pas dit jusqu'à 35 ans. C'est ouvert. Il n'y a pas de limite d'âge là. C'est ouvert à tout le monde. Normalement, c'est juste 18 à 35 ans, pas plus. Et Mathieu et moi, nous sommes toujours éliminés. On ne peut pas procéder.
On n'est pas loin du 35.
On n'est pas loin, on n'est pas loin du 35.
Ah, je vous voyais dans les 34.
Oh, ouais. Voilà. On va en musique un peu là, du côté de l'Afrique du Sud, avec de la mapiano, bien sûr. Chucky Sound, Molly. Ouah, ça c'est méchant, ouais. Ce sont quatre, c'est tout nouveau, tout neuf. Bocelli et King, ouais, c'est une très belle collaboration de cette nouvelle génération sud-africaine.
Family gathered in Hakesaya Kinagana Kawe Nateng Idula Ki I wish in Kame Uli Teng Kubona Telo Piliapa Unsweri Katapelo Next day, I'm in love.
En Afrique du Sud, comme ça, avec toute cette nouvelle génération qui nous fait de la mapiano pure. Ouais, il y a beaucoup de musiciens du jazz, c'est une autre génération. La nouvelle génération, c'est beaucoup house music, amapiano qui fait le tour du monde d'ailleurs. Voilà, on va rester un peu du côté de ce côté de l'Afrique là, parce que le Rwanda, c'est pas si loin que ça. L'Allemand Maurice Krejci remporte le tour du Rwanda. Hein, Mathieu, tu te rappelles, je parlais du tour du Rwanda la semaine passée ici. C'est fini? C'est un Allemand qui a gagné.
Cyclisme?
Oui. Maurice Krejci. Ouais. Tour du Rwanda 2026. Il parcourant 997,8 km en 23h08min48s. C'est exact.
C'est précis.
C'est précis, c'est des faits.
C'est très allemand.
Il n'a remporté aucune étape, mais son intelligence tactique et le soutien de l'équipe SNN Development Team lui ont permis de devancer Johannes Adamietz de 2 minutes. Oui, pour gagner l'étape, pour remporter, il ne faut pas gagner toutes les étapes là. Là, c'est autre chose. Voilà. Donc, cela signifie beaucoup pour moi. Il dit surtout pour toute l'équipe. L'équipe a fait un travail incroyable toute la semaine. Nous avons très bien travaillé ensemble et au final, nous le méritons vraiment car nous étions en fait l'équipe la plus forte. C'était un effort d'équipe et nous le avons montré que nous étions les plus forts et que nous avions le maillot jaune. Ouais. Vainqueur de la course. Ouais. Sans même remporter une étape.
Ah.
Ne me demandez pas, je ne fais pas partie du jury. Hein. Je ne fais pas partie de l'équipe d'organisation.
Il est parti en reculant, en fait.
Non.
No comment.
Ouais. Ouais. Et puis la dernière étape a été remportée d'ailleurs par l'Érythréen Enoch. Et Enoch, c'est pas la première fois qu'on parle de lui. Hein. Il a même...
L'Érythréen
Il s'est fait entendre, il s'est fait découvrir. On l'a découvert vraiment dans une grande compétition comme ça à Paris il y a quelques années. Oui. Tandis que MSN contrôlait aussi le peloton pour protéger le maillot jaune de Kreski. Le Rwandais Samuel Nyankuro a terminé 16e meilleur coureur local. Oui, il est le meilleur de son pays, mais il n'est pas le meilleur de la compétition. La saison a déjà commencé. Il a couru en janvier, en février. J'ai presque fait 20 courses. C'est le gagnant qui parlait. On parle du gagnant, là. Même s'il n'a gagné aucune étape. Il a participé à beaucoup de courses. C'est donc sa première victoire de 2026, l'année que ne fait que commencer. Et il voulait vraiment gagner cette course. Et j'ai enfin réussi. Je suis donc très heureux pour mon équipe. Ouais. Vainqueur de la dernière étape. Ça, c'est celui de maillot jaune. Là, voilà. L'Allemand de 23 ans contrôlait le peloton depuis qu'il avait pris le maillot jaune après la 4e étape à Rubavu et l'a défendu avec succès jusqu'à l'arrivée. Waouh. Il faut le faire, hein. Ça, c'est les Allemands, ça, quand ils veulent quelque chose. Voilà, là, on va parler un peu d'Éthiopie avant de passer à une autre pièce musicale. L'Éthiopie qui vient de célébrer son 130e anniversaire de la victoire d'Adoua. C'est là qu'ils ont battu les Italiens. C'est-à-dire que c'est le seul pays africain qui n'a jamais été colonisé. L'Éthiopie. Tous les autres l'ont été. Bon, après la suite, c'est autre chose. Tous les pays africains ont eu des colonisateurs, il y a eu des colons qui sont restés dans ces pays, tout ça. Les Italiens ont essayé, pas une seule fois, plusieurs fois, mais ils ont toujours été battus par les Éthiopiens. Il faut le reconnaître, ça fait 130 ans. Cette victoire militaire orchestrée par l'empereur Ménélique II. Pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, tapez sur Google Ménélique II, vous allez avoir toute l'histoire de Ménélique II qui a...
Un grand guerrier.
Voilà, grand guerrier, voilà. Il y a eu plusieurs défilés militaires. Bon, cette victoire consacrera bien sûr l'indépendance de l'Éthiopie et la puissance militaire du pays. Pour de nombreux participants, cette commémoration est aussi porteuse des messages d'apaisement. Certains expriment le souhait de célébrer à Doha dans l'harmonie avec le voisin érythréen, qui faisait partie d'ailleurs de l'Éthiopie. Il y a eu des guerres de clans, ouais, de tribus, tout ça, c'est ce qui fait que l'Érythrée est devenue un pays, là. Ça faisait partie de l'Éthiopie, effectivement.
Très beau pays, j'y ai été il y a longtemps. Très
chanceux, ouais, ouais.
J'ai été joué là-bas, ouais. Très très beau pays.
La guerre ne profite à personne, elle n'apporte que des effusions de sang, des pertes humaines et la destruction des nations. Or, une nation, ce sont avant tout des êtres humains. C'est beau ça, c'est très poétique, ouais. Au fil des décennies, ce triomphe est devenu un symbole de résistance, de dignité et de fierté, non seulement en Éthiopie, mais aussi à travers le continent africain. Ouais. Lors de ce 130e anniversaire, des vétérans de la Seconde Guerre italo-éthiopienne des années 30 ont également été honorés. Le Premier ministre Abiy Ahmed a salué une victoire qui, selon lui, a permis de préserver une civilisation vieille de 3000 ans. Il a appelé à l'unité nationale et à un effort collectif pour honorer l'héritage des ancêtres. Les plus vieilles bibles, les plus vieilles églises, c'est là-bas, en Éthiopie. Ouais. Ok. On me fait signe qu'il y a encore du temps pour de la musique. Merci Mathieu. Voilà, on va écouter une autre pièce musicale, cette fois-ci avec qui ? Avec un Congolais. Dad Tetop, parfum Ya Bolingo.
Mémoire motema nanga ezali yo na kufina plaisir na vivre na yo aimer c'est donner sans compter et sourire même en pleurant tous à la ensemble jusqu'à la fin des saisons parce que bolingo nabi soit allié éternel.
Là, on était du Congo, de la RDC, comme ça. Du côté de la RDC, il y avait Dad, T'es top, parfum, il y a Bolingo. Ne me demandez pas, ça veut dire quoi, Bolingo? Mais parfum, je sais ce que c'est que. C'est que le parfum. Il y a Bolingo, peut-être parfum, tu es bon, ou bien tu sens bon, ou bien quelque chose comme ça, de ce genre. Voilà. Avant de terminer, passer à une dernière pièce musicale, rapidement, je vais parler du Royaume-Uni. Il y a deux pays africains qui sont interdits de visa d'étudiants, d'études. Ouais, le gouvernement britannique a annoncé mardi 3. Saviez, ouais, il y a deux jours, quelque chose. La suspension de la délivrance de visas d'études aux ressortissants afghans, camerounais, birmans et soudanais, ainsi que des visas de travail aux Afghans dans le cadre d'une politique plus large de répression à l'encontre des demandeurs d'asile. Donc il y a le ministère de l'Intérieur qui a déclaré qu'il y avait eu une forte augmentation des demandes d'asile. Ça me fait penser aussi de la situation au Canada, hein. Émanant d'étudiants originaires de ces pays et que près de 135 000 demandeurs d'asile au total étaient entrés au Royaume-Uni par des voies légales depuis 2021, c'est-à-dire avec des visas d'études. C'est pourquoi cette décision a été prise il y a quelques jours. Ça se passe ici aussi, hein. Les gens qui rentrent avec des visas d'études et qui vont par la suite aller faire des demandes d'asile. Ça ne se fait pas. Quand tu viens pour des études, vas-y. Voilà. Donc la Grande-Bretagne a... Voilà, va toujours offrir refuge aux personnes fuyant la guerre et les persécutions parce que c'est deux choses complètement différentes. Quand on vient pour études, on a un visa d'études, on n'est pas persécuté dans son pays d'origine. Voilà.
C'est pas du tout la même immigration.
C'est ça, c'est pas la même immigration. C'est pas quelqu'un qui vient pour chercher un emploi non plus. Merci. Et puis, donc le ministère de l'Intérieur a déclaré que le nombre de demandes d'asile émanant d'étudiants originaires d'Afghanistan, du Cameroun, du Myanmar et du Soudan avait explosé de plus de 470% entre 2021 et 2025. C'est comme ça que la décision a été prise. Pour dire à ces jeunes gens, stop. Si vous venez pour des études, vous venez pour des études. Si vous êtes persécuté dans vos pays d'origine, que vous venez pour faire des demandes d'asile, les portes sont ouvertes. Faites des demandes, ça ne veut pas dire que vous êtes accepté. Les dossiers vont être travaillés, tout ça, faire les enquêtes. Et puis c'est oui ou non, comme dans tous les pays du monde. Voilà, donc c'est triste, mais il ferme la porte aux autres. C'est comme ça, il faut faire très 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 attention. Alors, une minute encore avant la pièce musicale. Bon, j'ai parlé de quoi encore? Je voulais parler aussi de cette histoire de défi de l'électricité et du numérique en Afrique. Il faut les voir, l'électricité manque encore dans de nombreuses régions d'Afrique. Pourtant, le continent trouve des solutions locales pour avancer. Voilà, ça c'est très important parce que là, oui.
Je voulais juste rebondir là-dessus. Il y a plein de pays qui manquent d'électricité, mais pourtant, ces mêmes pays vendent de l'électricité.
C'est ça, c'est la tristesse.
Il y a vraiment...
Merci, j'apprécie cette intervention-là. Sans compter qu'il y a quelques pays en Afrique qui ont pris le taureau par les cornes en profitant de la générosité de la nature, c'est-à-dire le soleil qu'on a du 1er janvier au 31 décembre pour l'énergie solaire. Qu'est-ce qu'il faut? Si les pays ne sont pas en mesure de fabriquer des panneaux solaires, il faut les importer de la Chine. Parce que la Chine... Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller chercher cette technologie avant de pouvoir créer des panneaux solaires en Afrique. Le soleil est déjà là. Il y a des pays qui en font.
Mais on fait comme tout le monde. On les fait venir chez nous, on construit des usines et ils viennent construire chez nous.
C'est si simple que ça. Voilà. C'est si simple que ça. Le soleil est déjà là. Je sais pourquoi je parle de la générosité de la Dame Nature. Du 1er janvier au 31 décembre, il n'y a pas d'hiver. Que du soleil. Mathieu, tu voulais ajouter quelque chose?
Il y a même trop de soleil.
Il y en a.
Hein? Je... Ne mêle pas de cette conversation.
Il y a trop de soleil. Ouais, il y a trop de soleil. Ça veut dire que si c'est maintenant que les gens se réveillent pour dire ça, il faut pas partout avoir des, comment on appelle ça, des barrages hydrauliques pour avoir de l'électricité. Le soleil est là. Les panneaux solaires, même s'ils sont, ils n'ont pas été découverts il y a 50 ans, ça existe partout.
Et même, tu as l'avènement de Musk.
Oui.
Je veux dire, les batteries, tout ça, là, c'est un développement énorme. Et il y a plein de ces produits
oui.
qui viennent d'Afrique. Ça n'a pas de sens.
C'est là au moins. C'est-à-dire, là, on va revenir sur l'indépendance, là. Est-ce que ces pays ont les mains libres pour pouvoir se lancer dans ce genre de trucs, là? Parce qu'ils vont dire tout de suite, là.
C'est un autre débat.
C'est un autre débat. Merci à toi, Mathieu.
Merci à vous.
Merci à Bénin d'être passé. Merci. Il va falloir que tu passes le voir comme ça de temps en temps.
Je reviendrai quand tu voudras.
Voilà, quand je voudrai. Pas dans 10 ans. Et puis, bon, ben, merci à nos fidèles auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine. On termine en beauté avec qui, Mathieu? Avec un jeune. Ils sont quatre, hein, c'est des Sud-Africains encore, avec Anguinao, Imali, ouais, HK Belife, Miles Montana, Cardinal 25, c'est Nonzamo, et le titre de la pièce, c'est Anguinao, Imali. Prenez soin de vos minutes, et je vous dis ciao.
Allez, expliquez la fête. Kolume kimiso na moisha Nangi buringe sweli bi Nangi begi si mi moya Impilo yachi kama sinya Na mota bezulu sasa pa